4 pour 1 euro.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux pousses d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bonjour, bonjour les amis, soyez les bienvenus. Comme chaque samedi, nous sommes là, vous le savez, pour bien manger et puis comprendre ce que nous mangeons. Comment rapprocher les agriculteurs et les consommateurs? Ce sera le dossier du jour. Nous partagerons aussi une choucroute avec le chanteur Sanseverino. Ça va swinguer, je peux vous dire. Mais pour l'heure, voici les bons vivants du jour. Le monde change, celui de nos habitudes alimentaires aussi. Charlotte Langrand est à l'affût pour vous. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent.
On va se faire une belle part de pas de pâté en croûte, mais de quoi?
D'oreiller.
L'oreiller de la belle aurore?
C'est ça.
Mais non.
Mais si.
Une merveille charcutière, les amis, restez là. Du pain, du vin, des copains, voilà sa devise. Si vous rajoutez justement une bonne charcuterie, il ne dira pas non, c'est Olivier Pouls.
Je dirais même oui, et je peux vous dire que pour l'oreiller de la belle aurore, rien que pour ça, je reste.
Jean-Luc Petit-Renaud nous mettra au parfum du pain d'épices et Marion Sauveur nous rejoindra pour son journal de la cuisine. Et puis restez bien avec nous, parce que Justine vous dira comment participer à notre grand jeu de la hotte de Noël dans quelques minutes. Il y a plein de beaux cadeaux. Voilà, vous savez tout, c'est parti. Alors, avant de prendre la température du marché de Pontoise dans un instant, on va se souvenir justement, c'est l'heure de notre Madeleine de Proust hebdomadaire. Quel est votre goût de la semaine? Vous aussi à la maison, posez-vous la question, le goût qui vous a marqué cette semaine, une recette, une adresse, quelque chose de partagé avec quelqu'un que vous aimez. On va commencer par vous, Olivier Pouls.
Ah oui, partagé, effectivement. J'ai eu le privilège d'être invité à manger par mon fils qui avait fait la cuisine. Oscar, 20 ans.
Bien.
Voilà, je m'assieds, je m'installe tranquillement et arrive là, son plat fétiche, son plat préféré, des pâtes à la carbonara.
Ah, vous l'avez bien élevé, il y a un peu de viande, c'est bien.
Oui, 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 mais avec une vision un peu estudiantine de pasta à la carbonara.
Je vous vois venir, la crème.
Ben voilà, lardons, crème fraîche, alors quand même un jaune d'œuf. Un peu de fromage. Alors, je voudrais lui passer un petit message. Oscar, c'est bien,
oui.
Mais tu peux mieux faire. C'est donc de l'ajout de porc, hein, de guanciale, pas de crème, plusieurs jaunes d'œufs pour faire la liaison et beaucoup de parmesan.
Et beaucoup de poivre, parce que ça vient de là, ça vient des charbonnets italiens, la carbonara. Hein.
C'est ça. Alors voilà, pour la prochaine fois, j'espère qu'il aura pris note.
Eh bien, merci Olivier. Votre goût de la semaine, chère Charlotte Langrand?
Alors moi, Laurent, j'ai vécu une expérience assez incroyable. Mercredi soir, au Musée de l'Homme, j'ai mangé préhistorique.
Ah oui, c'est bien, vous l'avez fait ça?
C'est ça, il y avait un dîner organisé en marge de l'exposition Je mange donc, je suis.
Oui, on en a parlé ici.
Ouais. Avec le chef Emmanuel Perraudin qui a croisé son savoir-faire culinaire avec l'historien Roland Nespoulet et le chercheur Christophe Lavelle. Ils ont imaginé comment mangeaient les premiers hommes.
Et alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient?
Et alors, on a mangé du renne séché, du lapin brûlé, du foie, on a mangé des tempuras de cervelle, de la betterave qui ressemblait à du sang. Non, sans rire, c'était vraiment bon, émotionnel, c'était franc, amer, c'était tout sauf lisse et consensuel, il y avait vraiment du goût brut comme ça, et ça faisait en plus réfléchir à ce que c'est que le goût. En fonction des époques et des cultures, c'était absolument passionnant.
Ben est-ce que vous étiez en peau de bête?
Bien sûr, dans une grotte.
Dans une grotte avec un feu de cheminée. Mon goût de la semaine, eh bien moi, c'est celui du magret. Tout ça pour rendre hommage à André Daguin, l'inventeur du magret qui nous a quittés cette semaine. Il a inventé le magret il y a 60 ans. C'était à Auch, à l'Hôtel de France. Personne n'avait cuisiné cette poitrine de canard à l'époque. Et on n'osait même pas dire que c'était de la poitrine de canard. Il avait marqué viande rouge grillée. C'est ce qu'il me racontait quand je l'avais rencontré. Et il vient de nous quitter à 84 ans, donc pensez à la famille d'André Daguin. Et merci André d'avoir découvert le magret qui fait partie des plats préférés des Français. Vous aimez le magret, Olivier Pouls?
Ah ben j'adore.
Charlotte Langrand?
Tout le monde aime le magret.
Et ben voilà, direction le marché comme tous les samedis matins. Et quand on fait le marché, on a tous nos petites habitudes. Direction celui de Pontoise, dans le Val d'Oise. Et Marion Sauveur s'est amusée à décortiquer vos petits rituels.
Eh ben 40 euros tout rond.
Il n'y en a plus beaucoup qui comptent comme ça de tête. Hein. J'ai mes habitudes, ouais, le maraîcher, le poissonnier. Bah, je regarde les queues pour aller vite. Allez, les fruits.
Les oranges de Sicile, ils sont là, monsieur, dame. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
À nous.
4 oranges de table.
Je garde vos sacs un petit peu. Il n'y a pas de souci.
Voilà, je laisse mes sacs au fur et à mesure, comme ça, je ne porte pas. Ce que je trouve agréable au marché, c'est qu'on puisse discuter, les gens sont sympas, on a un échange. On parle pas une machine, hein, parce que les machines ne répondent pas.
Une petite tranche de pâté de lapin, s'il vous plaît, jeune homme.
Côté oreille ou côté queue, monsieur?
Ah, côté oreille toujours, côté c'est meilleur par là.
Voilà, vous voyez, il y a de l'ambiance aussi, toujours sur ce marché.
Et voilà, merci, bonne journée.
Ça marche, bonne journée.
Bonjour.
Et bonne journée, messieurs, dames. N'oubliez pas la monnaie. C'est bien, c'est le petit rituel du pâté de lapin. Moi, je suis preneur, effectivement.
C'est sympa quand les commerçants vous font goûter des petites choses comme ça. Un petit morceau de fromage, une petite rondelle de saucisson.
Comme le saucisson chez le boucher quand on était petit.
Hein. Oui, c'est bien d'être fidèle à ces commerçants du marché.
Même si on achète juste un petit morceau, c'est bien d'aller leur rendre visite et d'entretenir le lien. La patate douce est aussi sur nos étals en ce moment. On va en parler. On la connaît avec sa chair douce et sucrée, mais il en existe différentes variétés et on les cultive même en France, dites donc. Ne bougez pas, on revient avec la patate juste après ça.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. 11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Pour varier notre alimentation et changer les habitudes en cuisine, vous le savez, rien de tel que les produits de...
saison.
Ben voilà, bravo. Alors les légumes racines sont en place pour attaquer l'hiver. Et parmi ceux qui ont la côte, il y a un tubercule venu d'Amérique du Sud. Alors c'est pas la patate tout court, mais c'est la patate douce. C'est un tubercule, mais qui n'est pas de la même famille que la pomme de terre. La pomme de terre appartient, vous savez, à la famille des solanacées, comme l'aubergine par exemple. Et la patate douce, on ne le dit pas souvent ce mot, mais je vais vous le dire, c'est la famille des convolvulacées.
Hein, à vos souhaits.
Ah, non, d'accord, on n'utilise pas tous les jours. C'est comme les liserons et les belles de jour. Hein, c'est une plante cousine des fleurs. On en veut de plus en plus en France, hein, de la patate,
ah
Charlotte.
Oui, on adore ça. On est passé de 17 000 tonnes à 40 000 tonnes de patate douce vendues en l'espace de 2 ans entre 2015 et 2017.
Bah oui, c'est vrai que c'est rassembleur. Comme on dit, les enfants aiment ça parce que c'est une chair douce et sucrée. On en cultive en France aussi, hein, maintenant, elle se plaît chez nous.
Bah, ça fait partie de ces produits un peu à la mode, un peu tendance qu'on découvre. Oui, on en produit en France métropolitaine. Il y a même une variété dans le Var qui est revendiquée. C'est la patate douce de Cogolin, figurez-vous.
Ah bah, vous me faites ma transition, dites donc. Je vous emmène justement à Tourve, dans le Var. Frédéric Michel, vous savez, le correspondant d'Europe 1, eh bien, il nous emmène ce samedi matin chez le maraîcher Bruno Quéron. Il vient de récolter les patates douces. Alors, il a eu de la chance, c'était juste avant les inondations qui ont frappé le Var, et on a une pensée pour toutes les personnes qui ont été frappées par ces inondations et qui nous écoutent. Et de la patate douce, il n'y en a pas que de la orange. Écoutez.
C'est une production qui reste en terre, qui pousse pendant 4-5 mois, selon les variétés. Nous, on fait 5 variétés. On fait la patate douce violette, on fait aussi la patate douce orange qu'on voit partout, on fait la patate douce blanche avec une peau violette, et on fait la patate douce de Cogolin qui, elle, est blanche avec une peau blanche. On retrouve différents goûts selon les patates douces.
Pour un plat de la région, l'aioli, c'est parfait, la patate douce.
Ça remplacerait avantageusement les pommes de terre, surtout la patate douce blanche, là, qui n'est pas trop sucrée. Certaines qu'on peut utiliser en dessert aussi, tellement elles ont de sucre. Alors pour la conserver, il faut d'abord la faire maturer. C'est-à-dire que là, on va la mettre en serre pendant une semaine, en la laissant au soleil, et ça va durcir la peau. Et le taux de sucre va devenir plus important. Et après, ce qu'on fait un peu avec tous les légumes, on les stocke dans des palox avec du sable. Pour la patate douce, c'est sable sec. Donc on met une couche de sable, une couche de patate douce, une couche de sable, une couche de patate douce. Pas de lumière. Et on le stocke en cave. Après, on peut la stocker et la garder tout l'hiver.
Et ben voilà, comme les carottes par exemple. Eh bien merci beaucoup Bruno Quéron pour cette découverte de la patate douce. Il n'y en a pas que de l'orange effectivement. Petit message, tiens, notre camarade Yves Candebord. Vous savez, à chaque fois qu'on parle de la patate douce dans cette émission, il dit ouais, ça n'a pas d'intérêt, j'aime pas ça. Hein, vous êtes un peu comme lui, vous.
Oui, c'est, je pense que c'est une génération de cuisiniers. C'est des produits qu'on n'a pas, enfin qu'il n'a pas, à mon avis, beaucoup travaillé. Ces produits sont arrivés assez récemment, en fait.
Eh bien, qu'ils découvrent la blanche. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on a déjeuné tous ensemble la semaine dernière, la bande des bons vivants.
Ah, je m'en souviens bien.
Et dans l'entrée, il y avait de la patate douce avec du crabe. Et il n'a rien dit, Yves Candebord. Il s'est bien tenu, il l'a mangé.
Et il a aimé.
Et c'était son chef, et il a aimé. C'était son chef, Christian Constant, qui avait préparé la recette.
Je crois qu'il n'osait pas dire
quelque chose. Il n'a pas pu dire des trucs négatifs, là, c'est pour ça. C'est une question de goût, c'est vrai, la patate douce. Mais moi, j'adore ça. Les Japonais en sont friands aussi, Charlotte.
À nos questions de goût. En fonction des cultures, hein. Les Japonais, eux, ils adorent la patate douce sucrée à peau violette et à chair blanche plutôt.
Et au Pérou aussi, on est friand de la patate douce.
Oui, c'est la terre qui a vu naître la patate douce avec les picarones péruviens. C'est des beignets de courge et de patate douce. Cette saison, c'est doux, Et puis on en trouve partout à Lima, dans des petits stands.
Ah, je prends des beignets de patates douces et de courges. Une idée de recette toute simple, tiens, pour ce week-end autour de la patate douce. Vous en prenez quelques-unes entières, vous les mettez au four. Le four à chaleur vive, hein, avec la peau, comme ça, directement. Vous attendez que la peau se craquelle, qu'elle crame un petit peu. Vous allez récupérer cette chair qui n'a pas d'eau du tout, hein, l'eau de végétation est partie. Et vous mangez ça avec un tarama un petit peu coupé avec du fromage blanc et du jus de citron. C'est délicieux. L'accord patate douce, poisson, œuf de cabillaud du tarama. Vous avez envie d'essayer, Olivier Pouls?
Ah oui, j'ai envie d'essayer, oui.
Et Charlotte. Alors, on peut piquer la recette de Julien Dubouet, le chef de chez Boulhomme.
À Paris, oui.
Oui, il fait une recette d'aligot à la patate douce et à la mimolette.
Oh là, alors c'est pas officiel, hein, pour les Aveyronnais.
Non, il se bouche les oreilles et puis tout va bien.
Mais c'est bon, j'ai vu ça, elle est belle, il la monte...
Il file de la même manière.
Il le monte très très haut,
ah
je
oui,
crois.
Ah oui, 1m90.
1m90, j'ai vu ça sur son Instagram, vous voyez, on est connectés. Le monde change, notre agriculture aussi. Comment rapprocher les agriculteurs et les consommateurs? On en parle dans un instant après le journal de la cuisine de Marion Sauveur. A tout de suite.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Tous les samedis, vous avez table ouverte sur Europe 1. Et puis vous le savez, Marion Sauveur garde toujours un œil ouvert sur l'actualité de nos assiettes pour son journal de la cuisine. Ça tombe bien. La voici. Bonjour Marion Sauveur.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors dans un instant, on va s'attacher à renouer les liens entre les consommateurs et les agriculteurs. Mais juste avant, voici les titres du journal de la cuisine. La mort du chef André Daguin, la fin du steak végétal, le vin bio a le vent en poupe en France, c'est le menu de votre journal Marion. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le cuisinier engagé André Daguin nous a quitté cette semaine à l'âge de 84 ans, Marion.
L'ancien chef 2 étoiles à Auch avait été le premier à cuisiner le magret de canard grillé et non confit. Il avait été aussi président de la Fédération nationale de la restauration française et parmi ses combats, la baisse de la TVA de 19,6 à 5,5%. J'ai appelé l'ancien chef du Ritz, Guy Leguet, oui, qui participait avec lui au challenge foie gras et lui rend hommage.
Une forte personnalité. Il a marqué son temps, il a marqué son passage. C'était un excellent cuisinier. C'était, disons, du niveau d'un Paul Bocuse, vous voyez. Ce sont des grandes personnalités de la cuisine. Et ce sont des gens qui vont marquer l'histoire de la cuisine.
Eh oui, il nous a marqué avec cette invention magnifique. On le disait, le magret, c'est lui qui était le premier à cuisiner le magret de canard. Au revoir, steak de soja et saucisse végétale, Marion.
Les bon députés l'ont voté cette semaine. Les produits qui ne sont pas constitués très majoritairement de viande ne pourront bientôt plus porter le nom de steak, filet ou saucisse.
Voilà, c'est comme
c'est
les...
très bien, tout comme les fromages qui ne contiennent pas de lait, etc. C'est ridicule.
Et comme les laits végétaux qu'on n'a plus le droit d'appeler ainsi, mais boissons végétales. La France va devenir en 2021 le premier consommateur de vin bio, Marion.
Et oui, c'est ce que révèle une étude britannique. Alors, selon elle, les Français vont consommer d'ici 2 ans 2 fois plus de vin bio qu'en 2013. La France dépassera alors l'Allemagne, aujourd'hui premier pays consommateur de vin bio.
Allez, on passe maintenant, Marion, à votre cerise sur le gâteau consacrée à une association cette semaine, c'est les Frigos Solidaires.
Et oui, qui fête ses 2 ans. En fait, les Frigos Solidaires installent des réfrigérateurs devant les commerces pour que tout le monde puisse y déposer des denrées alimentaires pour aider, bien sûr, les démunis et éviter le gaspillage. Alors, ça a été monté par une chef parisienne qui s'appelle Dounia et qui a découvert ce concept à Londres.
Tout le monde peut déposer à manger ?
Alors, oui, bien sûr, mais pas n'importe quoi. Attention, pour les particuliers, il faut déposer des fruits, des légumes, du pain, du jambon, des yaourts, tant que les dates de limite de consommation sont encore valables.
Ah bah oui.
Et puis les restaurateurs, les commerçants qui ont ces frigos peuvent eux déposer des plats cuisinés ou leurs invendus.
Et ça se trouve où ? Il y en a partout en France de ça ?
Partout en France. Alors il y en a 43 aujourd'hui, donc vous en retrouvez à Montpellier, à Saint-Clermont-Ferrand, à Lyon, à Bordeaux, même à Lille-Rousse. Le dernier vient d'ouvrir à Agen. Il en manque quelques-uns quand même sur la Côte d'Azur ou dans la région centre. Et il faut en développer dans les grandes villes. Par exemple, il n'y en a que 7 à Paris, donc il n'y en a même pas un par arrondissement.
Donc si on veut participer, c'est où ? C'est frigosolidaires.com ?
Oui, l'adresse ce sera sur europe1.fr et ils cherchent absolument des commerçants solidaires, n'hésitez pas.
Eh ben merci Marion, et puis à propos de solidarité, faites le 36-37 aussi ce week-end, c'est le Téléthon. Et Marion, ne bougez pas, on vous retrouve tout à l'heure, vous nous mènerez en bateau, mais pour la bonne cause tout
et
à
oui.
l'heure, celle de la table, restez avec nous. Voici notre dossier du jour. Alors la semaine dernière, ils sont venus aux Champs-Élysées en tracteur. Nos agriculteurs ne se sentent plus aimés du reste de la France, alors à tort ou à raison, comment comment rapprocher les consommateurs et les agriculteurs? On en parle tout de suite avec un politologue et chargé d'enseignement à Sciences Po Aix, qui écrit en ce moment un livre sur l'agribashing, c'est Eddy Fougier. Bonjour Eddy Fougier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Eddy, le 27 novembre dernier, 1 000 000 de tracteurs sont venus sur les Champs-Élysées. Les paysans étaient là pour dire leur malaise, ils se sentent mal aimés. Quelle est l'origine de ce malaise déjà, selon vous ?
Sans aucun doute qu'il y a une difficulté économique que rencontrent de nombreuses filières, notamment les filières bovines, laitières. Il y a au-delà l'impression qu'ils font l'objet effectivement de forme de dénigrement dans l'espace public, pour aller vite.
C'est ce qu'on appelle l'agribashing.
C'est ce qu'ils appellent l'agribashing. Et puis surtout, dans la période récente, il y a eu des actes de malveillance à l'encontre des agriculteurs qui a fait un petit peu... c'est la goutte qui a fait un peu déborder le vase.
Des exploitations auxquelles on a mis le feu, quand même. Hein.
Oui, des intrusions, des insultes, un certain nombre de tensions qui peuvent exister aussi avec des voisins. Donc c'est ça qui les a motivés sans doute pour effectivement avoir plusieurs types de mobilisation, et notamment ce qu'on a vu donc le 27 novembre.
Qu'est-ce qui nourrit l'agribashing selon vous ?
Sans doute une distance qui a été prise entre la société et les agriculteurs depuis quelques années, et puis un rejet de la part d'une partie des consommateurs pour le mode de production de l'alimentation, et les agriculteurs font partie d'une chaîne alimentaire dont ils sont sans doute l'une des victimes collatérales. Donc c'est un ensemble, une évolution de la société et surtout une séparation d'un certain point de vue entre une partie des citadins et les agriculteurs.
Alors pourtant, quand on écoute le ministre de l'Agriculture, il semble plutôt avec les agriculteurs. On l'écoute, tiens justement, c'était il y a quelques jours au micro de Mathieu Béliard sur Europe 1 dans la matinale.
Je soutiens leur colère et cette manifestation parce qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Mais concrètement, on leur propose, avec la loi Egalim, une inversion de la construction des prix. On leur propose de les soutenir face à la grande distribution afin que leurs prix remontent. On les aide dans toute la transition agroécologique afin que aujourd'hui le lien entre la société et les agriculteurs ne soit pas distendu.
Alors, ça suffit ou ça suffit pas, ce soutien du ministre ?
Disons que un certain nombre d'agriculteurs vont considérer que le ministre et la politique du gouvernement, c'est un petit peu le pompier pyromane. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il reprend l'expression agribashing, le président de la République l'a fait aussi au salon de l'agriculture. Et d'un autre côté, avec cette idée de transition agroécologique, il l'a dit lui-même, avec le fait de plus ou moins stigmatiser le glyphosate et les pesticides en général et d'appeler à une agriculture comme nos grands-parents, d'un certain point de vue, il va nourrir une contestation d'un mode de production. Donc, je ne dis pas que les uns ou les autres ont raison, mais il y a un petit peu une dissonance en matière de communication de la part du pouvoir depuis quelques mois.
Selon vous, plusieurs modèles agricoles peuvent cohabiter. C'est vrai qu'on parle de permaculture, d'agriculture bio, d'agriculture conventionnelle. Alors, il faut revoir des normes probablement sur les pesticides, mais peut-être que tous ces modèles peuvent cohabiter bien avec les autres, non ?
Ils doivent cohabiter parce que les besoins des consommateurs sont extrêmement différents dans une société de plus en plus fragmentée, avec ceux, effectivement, qui font leurs courses en regardant leur appli, je ne vais pas les citer.
Mais bon, Yuka, entre autres. Ouais.
Voilà, et puis ceux qui font leurs courses en regardant leur portefeuille. Et on le sait, il y a à peu près une enquête récente qui montrait qu'il y a 58% des ménages qui sont à 10 euros près lorsqu'ils font leurs courses et 14% qui sont à 1 euro près.
Et oui.
Donc ceux-là ne sont pas les mêmes. Donc il y a besoin d'une agriculture qui amène des produits effectivement plutôt haut de gamme et aussi d'une agriculture qui amène des produits à la fois de qualité mais à un coût abordable pour le plus grand nombre.
Alors les agriculteurs se sentent les mal aimés, pourtant 85% des Français disent le contraire. C'est vrai que le film Au nom de la terre d'Edouard Bergeron, que je salue parce que je sais qu'il nous écoute, son film a dépassé le 1,5 million d'entrées, donc ça prouve bien qu'il y a un engouement, qu'on aime nos agriculteurs. On va en parler justement avec une éleveur. Elle veut pas qu'on dise éleveuse, elle veut qu'on dise éleveur. Elle sera avec nous dans un instant au téléphone. On continue à parler du lien qui unit les consommateurs, c'est-à-dire nous-mêmes et les agriculteurs. Et peut-être que les médias ont eu la main lourde sur l'agribashing. On revient juste après ça.
Sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Après plusieurs scandales alimentaires, notre modèle agricole est malmené par de nombreux Français et puis les agriculteurs ne se sentent plus considérés. Alors comment renouer le dialogue ? On en parle avec Eddy Fougier, politologue, qui écrit en ce moment un livre sur l'agribashing. Eddy, j'ai envie qu'on parle du pouvoir des consommateurs en fait. Le consommateur a plus de pouvoir qu'il ne pense en fait. En payant un peu plus parfois, il aide l'agriculteur.
Oui, on le voit dans de nombreuses enquêtes qui ont été publiées récemment. Il y a une prise de conscience à la fois chez les agriculteurs et chez les consommateurs que ils s'étaient perdus de vue un petit peu ces dernières années et que finalement, il faut peut-être un peu se rapprocher, renouer le dialogue et puis qu'ils ont intérêt, les uns et les autres, à jouer le même jeu. Les consommateurs ont intérêt à ce que les agriculteurs jouent le jeu d'une agriculture plus saine, de qualité, à un prix relativement abordable pour les produits qu'elle va faire. Et les agriculteurs ont besoin de consommateurs. Donc, il y a des démarches qui sont faites aujourd'hui de part et d'autre, du côté du consommateur, avec des initiatives comme C'est qui le patron ou les applis qui permettent aux consommateurs de reprendre un petit peu la main sur son mode de consommation alimentaire. Et du côté des agriculteurs, il y a beaucoup d'initiatives qui existent, notamment de magasins de producteurs, de, alors, qui peuvent être plus
magasins
ou moins structurés.
Paysans, oui, les magasins, les paysans se regroupent et ont leur propre magasin maintenant.
Les marchés qui fonctionnent à nouveau, alors que il y a quelques décennies, on pensait que c'était fini. Il y a beaucoup d'initiatives en termes de communication aussi, alors qu'ils peuvent être discutées. En tout cas, aujourd'hui, dans une partie du monde agricole, il y a l'idée qu'il faut renouer le lien avec le consommateur. Et du côté du consommateur, il y a cette idée aussi que finalement, les produits que l'on mange, il faut voir d'où ça vient et prendre en compte aussi, par exemple, le revenu des producteurs.
Alors, on a fait un sondage, justement, sur le groupe Facebook des Bons Vivants. On a posé la question à nos amis qui nous suivent. Comment soutenez-vous les agriculteurs français? Nathalie, par exemple, achète par le site Locavor. Rémi est inscrit à La Ruche, qui dit oui, hein, c'est une AMAP. Il achète la marque aussi, C'est qui le patron? Vous venez d'en parler. Edith, Martine, Sylvie, Alice vont directement chez le producteur. Ils font des achats en circuit court. Comme je dis souvent, en changeant sa façon de faire ses courses, en picorant, on achète mieux et on aide les agriculteurs en plus. Hein, c'est ce que vous venez de dire.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors après, il faut voir deux aspects. L'écart qui peut exister entre le déclaratif et donc entre le c'est citoyen vrai. Qui est effectivement une conscience environnementale par rapport à la santé, par rapport au bien-être animal, et le client, une fois en rayon, qui souvent prend en compte le facteur prix. En tant que tel, ou qui peut se plaindre parce qu'il n'a pas nécessairement sur les origines, sur les ingrédients, tous les éléments dont il bénéficie. Et puis, je dirais, dans un globalement, c'est sans doute aussi un certain nombre de catégories qui ont un pouvoir d'achat assez élevé et une conscience écologique, environnementale assez élevée qui va être dans cette logique-là, pas nécessairement le consommateur lambda.
Alors, nous allons prendre Bérénice Walton, qui est éleveur de vaches Bazadès en Gironde. Elle est avec nous au téléphone. Vous êtes installée à Arvers. Vous vendez de la viande en vente directe sur les marchés fermiers et vous livrez des colis à domicile. Bonjour Bérénice.
Bonjour.
Est-ce que vous touchez plus qu'en vendant à la grande distribution, en vendant directement sur les marchés et en livrant vos colis, Bérénice?
Alors, tout d'abord, moi, j'ai fait un choix, en fait, dès le départ de mon installation. Donc, je suis installée depuis 2011. J'ai fait une reprise familiale. Mon père travaillait classiquement, on va dire, en vendant des vaches à une coopérative. Du coup, je trouvais que cette partie-là manquait un peu de sens, déjà, parce qu'on ne savait pas forcément où les animaux partaient. Donc, c'était ce premier point. Et ensuite, je me suis installée jeune, dans une situation où l'élevage ne fonctionnait pas très, très bien. Et donc, du coup, il a fallu que j'aille chercher, un peu de valeur ajoutée.
Et vous, Bérénice?
Et donc, j'ai fait le choix de la vente directe.
Et vous, Bérénice, les consommateurs, vous les voyez chaque semaine. Vous savez qui mange vos produits. Ça change quelque chose dans le rapport, j'imagine?
Ça change énormément de choses. C'est-à-dire que je sais vraiment où vont mes animaux. J'ai un retour direct sur ce que je produis. Donc ça veut dire que si je fais une erreur, j'ai la sanction, on va dire, rapide. J'ai aussi l'encouragement. C'est très important parce que le métier n'est pas tout rose, mais on a un très beau métier. Et c'est vrai que des fois, quand j'ai pas trop le moral et que je pars sur le marché, mes clients, eux, ont le moral et ils me soutiennent et me demandent comment mon fils. Maintenant, j'ai beaucoup de clients, c'est presque des amis. Et les consommateurs, je pense qu'aujourd'hui, avec le terme agribashing, l'agriculteur pense que les consommateurs sont nos ennemis, mais absolument pas. Moi, je le vois tous les jours. Et c'est quand même à la base ça, on l'a certainement perdu de vue. Mais c'est qu'on est utile à la société parce qu'il ne faut pas oublier qu'on mange 3 fois par jour.
Exactement. Et Bérénice, vous élevez de la Bazadès, qui est une race magnifique. Quel morceau vous nous conseillez à cuisiner ce week-end dans la Bazadès, alors? De l'entrecôte, du gîte, du paleron? Qu'est-ce qu'on mange?
Alors, ça peut être un plat de saison. C'est le plat de côte. C'est un morceau qui est
un pot-au-feu.
un pot-au-feu, mais moi je le propose aussi maintenant tranché pour faire griller.
Ah bien, oui, voilà. Ah ça c'est bien ça. Eh bien on prend, on achète. Olivier Pouls, à les papis qui frémissent. Merci Bérénice Walton d'avoir été avec nous au téléphone et merci pour votre travail. Voilà, c'est la preuve qu'il y a des agriculteurs heureux et il y a plein de solutions maintenant pour communiquer. C'est vrai qu'on voit des agriculteurs de plus en plus présents et diffugiés sur les réseaux sociaux aussi, hein.
Sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, il y a le collectif France AgriTwitto qui est très actif. Ils viennent de publier un petit livret pour expliquer ce que doit être une communication positive et bienveillante. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont décidé de prendre leur caméra, une petite caméra, et se filmer. Ils ont leur chaîne sur YouTube, ça marche bien. Alors c'est générationnel, sans aucun doute aussi, mais il y a l'idée, effectivement, aussi de reprendre en main une communication qui était sans doute une communication un peu trop institutionnelle, un peu trop syndicale, pour aller vite, et qui était un petit peu trop aussi technique, professionnelle, une communication d'ingénieur agronome, en gros. Et là, effectivement, ce sont des agriculteurs qui sont fiers de leur métier et qui veulent expliquer concrètement ce qu'ils font.
Eh bien, merci Eddy Fougier d'être venu nous parler de notre agriculture ce matin à la table des bons vivants. Je signale votre livre « Malaise dans la ferme, enquête sur l'agribashing » qui va sortir d'ici 2-3 mois. On aura
avant
les yeux
le salon.
Avant le salon. Très bien, ben on espère. Ne bougez pas, on va embarquer sur un paquebot maintenant. Comment mangeait-on à bord au milieu du XXe siècle? Vous le saurez juste après ça. Bon samedi matin, les amis.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'écouter la table des bons vivants, les amis. Elle est ouverte tous les samedis de 11h à 12h30. Dans un instant, nous allons rajouter un couvert pour notre invité. Le chanteur Sanseverina sera des nôtres. Jean-Luc Petit-Renaud sera aussi de la partie dans un instant. Mais avant cela, mettez vos plus beaux habits. Nous embarquons à bord du paquebot Île-de-France. Olivier Pouls et Charlotte Langrand. Vous avez la tenue, la queue de pied, Olivier Pouls?
J'ai tout ce qu'il faut.
J'ai sorti la robe de soirée.
Une exposition est consacrée à ce très beau paquebot actuellement à Boulogne. Ce navire a fait la liaison passager entre Le Havre et New York de 1927 à 1959 et il fallait nourrir, tenez-vous bien, 2500 personnes durant 5-6 jours de traversée. Écoutez, tiens, avant le reportage de Marion Sauveur, une visite des gardes-mangers au départ, c'est d'époque.
Pendant le voyage, nous dépensons environ 13 à 14 tonnes de viande qui se répartissent ainsi. 40 cuisses de bœuf, 50 aloyaux, 55 plats de côte, 8 veaux entiers, 40 carrés et longes de veau, 60 gigots d'agneau et 140 gigots de mouton.
Eh ben dis donc,
donne faim.
Hein, ça donne faim. L'approvisionnement se faisait au Havre avec les meilleurs produits français, on vient de l'entendre. Alors pour en savoir plus, Marion Sauveur est allée demander à Doriane Dallongeville, qui est historien et commissaire de l'Expo, comment on mangeait à bord à l'époque.
On est devant une œuvre assez exceptionnelle. C'est une coupe longitudinale du paquebot Île-de-France qui mesure 5 mètres de long. Et donc on aperçoit la salle à manger des premières classes qui se déploie sur 3 ponts de hauteur. C'est tout à fait gigantesque. Dans cette espèce de théâtre gastronomique dans lequel les passagers viennent aussi bien pour manger que voir et être vus.
Et on voit également les salles à manger plus modestes de la seconde et troisième classe.
Hein. Oui, tout à fait. La salle à manger de première classe, elle est au centre du navire, alors que les salles à manger de deuxième et de troisième classe sont renvoyées à l'avant et à l'arrière du navire, dans des zones un peu plus petites, un peu plus basses dans le navire.
Et là, on se trouve devant une collection d'orfèvrerie incroyable.
Pour la première fois sur un grand navire français, on va faire appel à un designer, c'est Luc Lanel, qui était directeur artistique de la manufacture Christophe.
Dans tous ces plats, qu'est-ce qu'on avait à manger?
On avait en première classe, pour chaque repas, à peu près 80 références dans les menus. Et puis surtout, une spécificité de la compagnie, c'était d'avoir des plats régionaux. Pendant toute la durée de la traversée, qui durait entre 5 et 6 jours, on avait chaque jour, midi et soir, des plats toujours différents. Rien ne revenait à la carte. Par exemple, on a la côte de veau à la Normande ou les rognons en cocotte bordelaise.
Il y avait aussi du vin, hein ?
Oui, et c'était très important pour la compagnie puisque c'était la seule compagnie européenne à proposer le vin à discrétion. Mais pour les passagers les plus fortunés, bien sûr, on avait aussi une carte des vins de cave où on avait accès à des vins de Bourgogne, de Bordeaux, d'Algérie, de Côte-du-Rhône, mais qui étaient les vins les plus recherchés du moment, bien sûr.
Merci Marion Sauveur. Voilà, c'est au musée des années 30 à Boulogne-Billancourt. Olivier Pouls, l'Île-de-France, à ce paquebot, avait un surnom d'ailleurs, hein, aux États-Unis.
Oui, the longest gangplank, ce qui veut dire la plus grande passerelle. Il faut savoir qu'à l'époque de la Prohibition, c'était une bonne nouvelle pour les passagers américains parce qu'ils pouvaient commencer à boire de l'alcool sitôt le port quitté et durant toute la traversée, alors que c'était interdit évidemment là-bas.
Eh ben, le 14 décembre à 16h, il y aura une conférence sur la gastronomie à bord des paquebots. Vous aurez les références sur Europe 1.fr.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Allez, c'est l'heure de retrouver notre mordu de pain d'épices. Vous allez comprendre pourquoi, c'est l'ami Jean-Luc Petit-Renaud. Alors, vous le connaissez bien, comme nous, il est attaché aux traditions. Hier, c'était la Saint-Nicolas, une fête célébrée ce week-end dans l'Est de la France. Eh bien, il nous en parle. Bien le bonjour, l'ami Jean-Luc.
Bonjour les petits-enfants, les bons vivants. Vous commencez à avoir les premiers flocons de neige sur le bout du nez. Vous êtes assez jolis et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cette fête qui s'appelle la Saint-Nicolas, qui est une sorte d'échauffement avant Noël. Il a une mitre sur la tête, une crosse à la main et il traîne derrière lui un âne où il a toutes ses friandises qui sont sur le dos de l'âne. Je trouve que Laurent Mariotte, mon camarade Mariotte, a quelque chose de Saint-Nicolas. Déjà ses origines. Lorraine, mais il est toujours accompagné d'un autre personnage qui pourrait avoir aussi sa place chez les bons vivants, c'est le père Fouettard. Et dans le rôle du père Fouettard, celui qui vient gronder les enfants passage, je voyais Olivier Pouls.
Mais oui.
Et donc les deux personnages avec passent toujours dans les hameaux et le père Fouettard gronde les enfants passage et puis Laurent Mariotte lui distribue des petits personnages qu'on peut déjà accrocher à l'arbre de Noël qui sont des figurines à base de pâte briochée. C'est entre le pain d'épices et la brioche. Et ces petits personnages sont parfumés à l'anis, à la cannelle. Ils sont jolis comme des petits cœurs. Et bien sûr, le Saint-Nicolas adore le vin. Et je voyais bien Olivier Pouls, le père Fouettard, sortir de la sacoche un joli Gewürztraminer qui pourrait aller avec ces personnages qui s'appellent les Manelais. Les Manelais. Du côté de l'Alsace et du côté de la Lorraine.
Ah, et ben on y était. Merci beaucoup, tonton bon, Jean-Luc.
Et on n'ira pas gronder Jean-Luc cette année.
Non.
Il s'est bien comporté, il aura des cadeaux.
Voilà, le père Fouettard.
Je n'aurai rien à lui dire.
Saint-Nicolas aussi. Tiens, quelques adresses pour croquer un bon Saint-Nicolas en pain d'épices. Il y a Sébastien Godard à Paris qui le fête d'ailleurs tout ce week-end. Rue des Martyrs, il fait un joli Saint-Nicolas en pain d'épices avec de belles images d'Épinal en couverture. À Nancy, chez Hulot. Et puis en Alsace, chez Fort Wenger. À Gerdville, et chez Christine Ferber, évidemment, qui était de passage ici.
L'incontournable.
Et si, comme nous, vous aimez les talents de conteur du camarade Jean-Luc Petit-Renaud, je vous conseille toujours son très beau roman « Les quatre saisons d'Émile et Marcel » paru chez Flammarion. C'est une jolie carte postale familiale écrite avec le joli talent de conteur du camarade Jean-Luc. Ne bougez pas, dans un instant, nous recevons un homme qui aime gratter la guitare entre deux mijotés. San Severino, le chanteur, sera notre invité. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Bon samedi matin les amis. Dans un instant, Charlotte Langrand va nous mettre au parfum d'une merveille charcutière. Écoutez bien, l'oreiller de la Belle Aurore sera avec nous et nous le partagerons avec San Severino. Le chanteur est notre invité et il participe en ce moment à l'album hommage autour des chansons d'Alain Leprest. Eh bien, on écoute SDF justement avant d'accueillir San Severino.
J'aimerais que ça cesse de se dégrader sans un bénéf. SDF, ce qui me blesse, SS, c'est d'être soldé, DD, pour pas baiser, FF. SDF, j'ai pas d'adresse, SS, rien à garder, DD, j'ai pas le tel, FF. SDF, rien dans la caisse, SS, rien à fonder, DD. J'ai pas de sous-chef, F, F, S, D, F. On me rabaisse, S, S. On veut me céder, D, D, en bas-relief, F, F, S, D, F. La politesse, S, S. Rien à glander, D, D. Je dis ça en bref, F, S, D, F. Même la comtesse, ne m'en garder aucun grief, F, F, S, D, F. J'ai trop de paresse, S, S, pour musarder dans votre fief, S, D, F. Chacun sa messe, S, S, et ses idées, D, D. Chacun sa nef, F, F, S, D, c'est ainsi que naissent des Jésus, des SD Marie-Joseph F F SD F pour qu'on se redresse S S c'est le verbe aider D qu'il faut qu'on se greffe F F S D F allez je vous laisse je vais jouer au D chez le père Youssef. Allez, je vous laisse. S, S, je vais jouer au dé. Chez le père Youssef. F, F, S, D, F. S, D, S, D.
SDF, une très belle chanson, très bien interprétée, extraite de Le Prest en symphonique, un album que vous trouvez actuellement dans le commerce. Voilà, si vous n'avez pas encore toutes vos idées de cadeaux de Noël, c'en est une. On aime sa gouaille et ses textes, il trimballe sa guitare rieuse des bistrots jusqu'à l'Olympia. San Severino est notre invité. Bonjour, ouais, San
bonjour.
Severino.
Bonjour. C'est une présentation de troubadour, là.
C'est ça. Mais ça vous va. Mais vous êtes un troubadour.
Oui, bon, oui, on en est tous. On se trimballe en voiture, mais c'est des troubadours. Hein.
Ah oui, alors à propos de voiture, c'est drôle parce que vous êtes fait connaître avec le titre Embouteillage.
Oui.
Et vous les avez fréquentés à l'instant pour venir nous
mais
voir.
Mais à chaque
les
fois qu'il y a des embouteillages, moi je suis toujours souriant parce que je me dis que.
Ça fait des embouteillages.
Exactement.
Ah oui, c'est vrai que pendant les grèves, à chaque fois, les radios aussi repassent votre jolie chanson Embouteillage. Vous êtes un bon vivant, vous êtes un cuisinier, San Severino.
Oui, je fais ça dès que possible. C'est-à-dire le midi et le soir.
Ah bah ça c'est bien. On rentre dans un hiver, une saison que vous aimez en cuisine ?
Ouais, je crois que j'aime bien l'automne parce que les couleurs sont belles et tout, et avec plein de jolis trucs qu'on peut mettre dans les assiettes, mais je crois que l'été, je préfère les trucs de l'été. Hein.
L'été, le mois de septembre est magnifique, on en parle toujours parce qu'on a la fin de l'été, on a le début de l'automne. On sera dans l'hiver tout à l'heure avec une choucroute que nous partagerons avec vous, San Severino.
Ouais, c'est gentil.
Quel est votre goût de la semaine ?
Mon goût de la semaine, c'est le foie gras et le canard, parce que dès que je sors de chez vous, je vais rejoindre des copains en Charente-Maritime qui mettent en bocaux du canard ce week-end. Et alors, je vais les retrouver et puis on va boire des coups et mettre du canard en bocal.
La vie, quoi.
Enfin, une certaine forme de vie. Il y a aussi le sport et la diète et les poireaux vinaigrettes et le riz blanc.
Mais vous avez raison, pour apprécier la charcuterie et justement un bon confit de canard ou un foie gras que vous allez mettre en bocaux, il faut aussi de temps en temps, évidemment, changer nos habitudes et manger des légumes et faire des petites diètes pour refaire.
Très légères, pas très longues.
Non, pas très longues.
Parce que c'est désagréable.
Mais 16 heures comme ça, simplement sans manger, en buvant uniquement du liquide, sans alcool, Olivier Pouls.
Oui, on se couche à 22 heures et on ne mange pas jusqu'au lendemain.
Exactement.
Oui, voilà, non, mais ça, je ça une fois tous les 4 ans.
Alors, on parlait d'artisanat avec vos bocaux, cher San Severino. Ouais. Eh bien, Charlotte Langrand, qui est à côté de vous, est restée elle aussi dans l'artisanat. Elle s'est attaquée à un savoir-faire qui date du 18e siècle. Écoutez bien. Charlotte, alors que le championnat du monde de pâté en croûte vient d'élire son lauréat 2019 il y a quelques jours, c'est un Japonais qui a gagné cette année.
Ouais, c'est ça.
Vous avez envie de nous faire découvrir un pâté qui demande un vrai savoir-faire, comme le pâté en croûte, mais alors on est encore au-delà. Là,
c'est ça. Dans la grande famille des pâtés en croûte, je voudrais le plus ancien, le plus impressionnant, le plus intrigant aussi, avec son nom presque aristocratique, hein, l'oreiller de la belle Aurore.
C'est beau ça.
Rien à voir avec ces petits pâtés industriels sous vide. Hein. C'est un travail d'orfèvre, un monument du patrimoine charcutier français, presque mythique par sa rareté, par sa recette et par son histoire.
Mais oui, c'est vrai que la recette est historique. Hein.
Oui, c'est au XVIIIe siècle que Jean-Anthelme Briat-Savarin, magistrat et surtout gastronome, l'aurait imaginé pour rendre hommage à sa mère, Aurore Récamier.
Alors ça, c'est ce qu'on raconte, mais il y a plusieurs versions,
À moins qu'une autre version plus romantique soit la bonne, l'un des cuisiniers de la maison, amoureux, transi, aurait confectionné cette pièce magistrale pour la courtiser. Comme il ne pouvait pas partager avec elle un oreiller de plumes, il a décidé de lui en confectionner un, bien en chair celui-là, contenant toutes ses volatiles préférées.
Ah, elle est sympa cette version aussi.
Oui.
Que contient cet oreiller charcutier
alors? Il a donné, disons, dans le romantisme démonstratif, nous avons là un coussin de pâte brisée rectangulaire de 15 bons kilos avec à l'intérieur tout un bestiaire.
15 bons kilos, oui.
Ouais, une dizaine de viandes, plusieurs farces, de la truffe et du foie gras selon les saisons. C'est un travail de 5 jours et un contenu qui suit la saison de la chasse, canard, perdreau, pigeon, lièvre, même riz de veau, c'est du costaud, mais c'est étonnamment doux en bouche et d'ailleurs c'est meilleur un peu chaud. Et les ingrédients, ils sont juxtaposés de façon à ce que chaque tranche d'oreiller contienne un morceau de chaque viande.
Ouais, c'est ça, c'est insensé, ouais. C'est un boulot de dingue. Hein. Ça prend plusieurs jours, vous
avez le dire. C'est plus du Tetris que du pâté. En plus,
aussi.
Comment et où peut-on aller goûter un tel oreiller alors,
il va falloir se munir d'un petit peu de patience et de quelques billets quand même, oui. Parce que c'est un plaisir rare,
et
donc luxueux. À 88 euros le kilo en moyenne, soit 22 euros les 250 grammes. Il faut le déguster comme un plat exceptionnel. Mmh. À Lyon, c'est une tradition régionale qui remonte à Bocuse et à la mer Brasier. On le retrouve à la maison Raynon. À Paris,
très belle adresse, la maison Raynon.
Très belle adresse.
Temple de la charcuterie.
À Paris, autre belle adresse, la maison Véro, qu'il confectionne 4 fois par an. La prochaine, c'est le fourné, c'est le 24 janvier. Mais on peut dès aujourd'hui et chaque vendredi samedi à Paris acheter un oreiller de la belle Marion à l'Astre sans apostrophe dans le 7e. Et vu la vitesse à laquelle les parts disparaissent, hein, c'est peut-être cet oreiller historique qui va donner un exemple de la nouvelle façon de manger de la charcuterie. C'est un pont entre passé et présent. Un savoir-faire artisanal, il respecte les saisons, ce qui fait qu'on en mange mieux, mais moins.
Voilà, moins mais mieux, c'est moins ce qu'on dit mieux. Souvent à cette table. Alors, on a une chance inouïe, figurez-vous, c'est que nous avons un oreiller de la belle Aurore devant nous. On a des petites parts gentiment envoyées par Johan Lastre dans le 7e arrondissement. C'est un jeune charcutier. On vous invite à goûter, tiens, San Severino, cet oreiller de la belle Aurore, ça vous parle ?
J'avoue que c'est déjà fait.
Ah, mais oui, elle est vide, l'assiette.
Alors, c'est soit c'est déjà fait, soit j'en ai pas eu. Mais en tout cas, on a assez vite.
Il y aura du rab.
Il y a 7 gibiers marinés dans 7 alcools.
Johan Lastre qui a gagné d'ailleurs le championnat du monde de pâté en croûte il y a quelques années.
Exactement.
Est-ce qu'il y a le championnat du monde de pâté en croûte? Il y a un maillot, il y a un truc, c'est comme au championnat du monde cycliste,
il y a
un maillot arc-en-ciel, il y a un trophée.
Il y a un trophée, il y a une médaille, il y a une coupe. C'est vrai que le japonais pleurait. Hein. Je vais donner son nom, tiens, au japonais qui a gagné ce championnat. Il s'appelle Osamu Tsukamoto, premier prix du pâté en croûte. Qu'est-ce qu'on boit avec l'oreiller de la belle Aurore, Olivier Pouls?
Alors, moi, j'aime bien, c'est ce que je vous ai apporté d'ailleurs, un vin rouge un petit peu souple, plutôt sur le fruit. Alors, on peut aller soit dans le Beaujolais, là, je suis dans la Loire, avec un Cabernet Franc de Loire,
c'est bien, ça, hein,
qui apporte son côté fruité, parce que ce qu'il faut, c'est respecter les textures de toutes ces viandes et surtout pas les écraser avec le vin.
Respectons les textures, vous êtes d'accord, ça me fait bien.
Moi, je suis pas trop d'accord pour le fait de respecter les trucs en général, mais les textures, oui.
Vous êtes un rebelle. Ne bougez pas, on reste dans les classiques dans un instant avec un atelier choucroute, toujours avec San Severino. Ce sera juste après les titres du journal de la mi-journée.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pousse d'épinards. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Retrouver la confiance entre les agriculteurs et les consommateurs, cuisiner la patate douce en version salée et sucrée, vous raconter l'histoire de l'oreiller de la belle Aurore. Comme tous les samedis, on déplie la table pour se régaler avec vous et notre invité bon vivant San Severino est des nôtres. Tout se passe bien,
oui,
San Severino?
Ouais, hyper bien, hyper bien.
Vous avez le swing dans la peau, la gouaille populaire. Vous prenez plaisir à cuisiner à la maison?
Ouais, et je me bats avec ma compagne pour faire à manger. Enfin, pas avec des coups, hein, mais je veux dire, c'est... Aujourd'hui, c'est moi, non, c'est toi.
Ah, c'est super. Etc. Alors, c'est quoi votre spécialité, vous?
Moi, j'ai plusieurs spécialités, mais j'aime bien la bouffe de montagne un peu. Là. Je fais souvent des gnocchis de pommes de terre.
Eh oui, vous avez des origines italiennes.
Ouais, bien sûr, ouais. C'est ma grand-mère et ma mère qui m'ont appris à faire ce truc-là. Là. Donc, c'est un truc qui prend du temps. Hein. La recette, elle est longue. Il faut les faire sécher, etc.
Puis bien les rouler.
Bien les rouler dans une jolie forme. Alors, il y a ceux qui roulent avec le doigt, ceux qui roulent avec la fourchette, ceux qui roulent pas, etc. Donc, moi, je roule avec une petite fourchette.
Et vous les mangez avec quelle sauce?
Alors, il y a deux trucs, soit sauce sauge, huile d'olive, soit sauce tomate, la grosse sauce tomate qui cuit 5 ans.
Mais oui, qu'on a pu faire en beaucoup. Mais c'est vrai que plus ça réduit, meilleur c'est, hein,
ouais,
évidemment.
Ouais, oui, c'est presque de la purée.
Vous aimez la tête de veau aussi, on m'a dit.
Ouais, je suis un grand fan de tête de veau. Je suis en pleine recherche de tête de veau. C'est-à-dire que j'ai encore des doutes sur le temps de cuisson, là. C'est-à-dire une tête de veau pour deux personnes. Donc une espèce de truc qui ferait 15 cm là, à la cocotte minute, j'oscille entre 45 et 50. Et,
ah oui, c'est précis. Hein.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on l'aime moelleuse.
Voilà. Mais moi j'aime bien croquant et ma femme aime bien moelleux, donc il faut que ce soit entre les deux. Et la tête de veau al dente, ça n'existe pas quoi.
C'est l'heure de se faire une petite choucroute, ça vous dit?
Ben allons-y, alors, j'attends.
Alors on va en Alsace, c'est Marion Sauveur qui nous emmène en Alsace. Et pas n'importe où, hein, on va chez Olivier Nasty, qui est un chef qui a 2 étoiles dans son restaurant gastronomique à Kaisersberg, mais qui a également une Winstube. La Winstube, c'est la brasserie traditionnelle alsacienne. Il fait une jolie choucroute. Alors il y a quand même des règles à respecter hein, pour se faire une belle choucroute. Et Olivier Nasty les rappelle justement au micro de Marion Sauveur. Direction l'Alsace, à Kaysersberg.
Hop là.
Vous tapissez votre casserole de Saint-Denis. On va y mettre un petit peu de vin blanc dans le fond. Forcément, on est en Alsace.
Du Riesling.
Un bon Riesling d'Alsace, quoi. Hein. Un couvercle. Je vais pouvoir mettre mon chou dessus. Si vous mettez le chou directement, il va se coller au fond de la cocotte et c'est ce qui va brûler. J'effile bien mon chou hein, pour que la chaleur passe bien partout. Il faut choisir le chou, il ne faut pas avoir la fin du chou râpé, comme ça c'est parti des côtes, c'est pas bon. J'assaisonne mon chou, hein, vous voyez, mes rouelles d'oignons que j'ai confit.
Dans le Saint-Doux.
J'ai réparti bien sur mon lit de chou, bien uniforme. Je vais mettre mon nouet là au milieu.
Le nouet avec les aromates.
Là j'ai mis le lard sur le dessus. 3-4 viandes différentes du porc. Comme ça, toute la cuisson du lard et tout va retomber dans le chou.
Et on arrose de Riesling. On rajoute de l'eau par-dessus alors.
Pour le mouiller quasiment à hauteur. Pour qu'il y ait une cuisson uniforme, il faut le faire bouillir rapidement. On met un couvercle et au four. Un four tempéré, à peu près à 160. Après 1h30, 2h, les viandes ont la bonne cuisson. C'est là qu'il faut savoir les retirer.
Ça y est, la choucroute est cuite.
Oui, voilà, allez. Mmh. Avec la réduction qu'il a eue, le vin blanc a donné de la bonne acidité.
Et la viande est fondante. Hein.
Et on sent bien également les épices, principalement le carvi.
C'est très généreux.
C'est ce qu'on attend de la cuisine alsacienne. En même temps. Oui. C'est cette générosité. Hein.
Un délice, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Merci et bravo Olivier Nasty. Sans
on n'hésite pas à parler la bouche pleine quand c'est si bon que ça.
C'est une émission dans laquelle
ça devient normal, c'est plus de l'impolitesse.
Et elle est réussie vraiment, il nous a bien expliqué effectivement. Bien mouillé à hauteur avec le Riesling, vous avez entendu.
Il y a de l'eau aussi, on met de l'eau, mais pas que du Riesling. Hein, il a dit qu'on mettait de l'eau.
Exactement, c'est vrai. Faut il faut se donner bonne conscience.
Mais il faut garder un peu de Riesling pour le boire, parce que...
Qu'est-ce qu'on boit avec ça ?
C'est évidemment le Riesling.
Non mais elle est merveilleuse.
Un Riesling bien sec, elle est magnifique.
Elle est magnifique parce que le Riesling bien sec va venir casser le gras de nos belles charcuteries.
Voilà,
en fait.
Exactement. Et puis,
pas de bière avec la choucroute.
Ah non.
Non, un bon Riesling, oui, un bon vin blanc. Faites de la choucroute ce week-end, les amis. Vous retrouverez les références sur europe1.fr, comme toutes les recettes dont on vous parle, évidemment, à la table des bons vivants. Ne bougez pas, parce que vous le savez, chaque samedi, vous pouvez compter sur nous pour répondre à vos questions posées sur le répondeur au 3921. Et puis sur la page Facebook du groupe des bons vivants. Vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs, sur cette page. Et on vous remercie. On revient avec Sanseverino, qui en est à sa troisième part de choucroute.
Oui, et j'ai attaqué les petits morceaux de dur qu'il y a sur le lard là, et ça.
Il attaque la couenne. Ouais, il est temps qu'on y aille. À tout de suite.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
La cuisine et la musique font beau ménage. Voilà pourquoi nous avons convié ce midi Sanseverino à une choucroute partie à la table des bons vivants. Sanseverino que vous retrouvez dans un très bel album, Le Prest en symphonique. Vous reprenez plusieurs chansons d'Alain Le Prest. Vous n'êtes pas le seul sur cet album.
Non, on est plusieurs chanteurs.
Il y a d'autres chanteurs, effectivement. Alain Le Prest, qui était un chanteur confidentiel, qui aimait raconter le quotidien des petites gens, des marginaux.
Comme c'est une espèce de grosse qualité d'écriture, c'est vrai qu'on n'écoute pas Alain Le Prest comme on écoute un truc d'Easy Listening comme ça quoi.
Des textes
Alain
très
Le Prest dans une pièce et on s'assoit, on écoute quoi.
Nougaro disait que c'était un des plus grands auteurs de chansons.
Il se trompait pas Nougaro étant donné que c'en était aussi un lui-même.
Exactement. Ouais. Vous avez commencé à jouer dans les bistrots à vos débuts avec votre groupe Sanseverino.
Oui exactement.
Vous avez besoin de ce contact là avec le public et de sentir les vibrations.
Au tout début c'est pas vraiment un choix, c'est un peu il y a que ça. Donc on
oui,
joue
encore de temps en temps.
Ouais, je le fais encore de temps en temps. J'aime bien quand les gens sont hyper prêts, qu'il y a des fois même des petites salles où les gens sont là à 1m50 de la scène, quoi. Ou même des fois quand il n'y a pas de scène. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais.
Vous avez commencé aussi avec Shirley et Dino.
Alors ça, c'était un petit peu après, mais effectivement, j'étais embauché chez Shirley et Dino pour écrire les chansons d'un spectacle et puis jouer dedans. Donc on a passé pas mal de temps ensemble. Et après, quand j'ai sorti mon tout premier album, j'avais plus le temps de faire Shirley et Dino. Alors j'ai quitté le spectacle pour partir faire mes trucs à moi. Mais c'est de temps en temps comme ça, je vais chez les autres artistes faire des petits passages.
Vous aimez toucher à tout, hein, la comédie aussi, la chanson.
Vous avez
passé d'un univers à l'autre.
Alors je sais pas si j'aime toucher à tout. En tout cas, c'est un plaisir de passer d'un truc à l'autre en permanence en fait, quoi.
Alors, vous le savez, si la bande des bons vivants est à votre écoute tous les samedis, un problème en cuisine, un doute sur un ingrédient, on est là pour vous aider.
Oui.
On va commencer par une question au 3921 avant d'écouter la vôtre, tiens, Sanseverino.
Avec plaisir. Je vais me permettre de manger un bout.
Bonjour Laurent et bonjour à l'équipe des bons vivants. Alors, c'est Florian de Genève.
J'avais une question concernant la sauce gribiche. Hormis avec un accompagnement de la célèbre tête de veau, j'aurais voulu savoir avec quel autre plat j'aurais pu la manger. Merci bien à vous et bonne émission.
La sauce gribiche, c'est bon la sauce gribiche. Ouais, ouais. Vous la mangez avec la tête de veau, vous qui êtes un fan
ouais,
de tête
ouais,
de veau.
Oui, bien sûr. Moi, la sauce gribiche, je la mange même tout seul avec du pain frais.
Mais c'est sur une tartine de pain grillé, ouais, c'est une tuerie.
Oui, voilà, mais oui. Du pain. La réponse est du pain.
C'est vrai qu'elle se suffit elle-même.
Ouais, ouais. On va rappeler ce qu'il y a dedans quand même. Hein. Des cornichons, des capres, des herbes, du cerfeuil, du persil, de l'estragon, des œufs durs, du sel, du poivre et de la moutarde avec de l'huile, évidemment, à ne pas confondre avec la ravigote, qui elle est vinaigrée, qui donne ouais. du peps aussi sur une tête de veau. Eh bien, pour répondre à Florian, qui nous posait la question. Je trouve qu'avec le végétal, ça marche bien aussi, la sauce gribiche, quand c'est la saison au printemps avec des asperges ou avec un poireau, pour remplacer le poireau vinaigrette, avec une viande froide, une charcuterie.
Ça ne s'essayerait pas avec le truc du sud, là, où il y a beaucoup de légumes vapeur avec du poisson.
L'aioli. Oui, avec l'aioli, je suis d'accord. Ouais. Absolument, on peut la mettre aussi.
Ça s'appelle plus un aioli, ça s'appelle un gribicholi.
Voilà, le gribicholi.
Ouais. Qui n'est pas très beau comme nom d'ailleurs.
Mais si, mais vous avez raison, parce qu'avec les poissons froids, ça marche très bien, la gribiche. Votre question, tiens, Sanseverino.
Oui, moi, la mienne, c'est les cuissons lentes et à basse température. C'est-à-dire que je ne comprends rien, ce truc-là. J'aimerais bien faire genre un gigot d'agneau là, en 9h30 dans mon four, là, à 50 degrés ou je sais pas, 40. Enfin bref, qu'est-ce qu'il faut comme matériel et comment on calcule les temps de cuisson par rapport au grammage, enfin au kilogrammage de la pièce à cuire?
Alors il faut du temps déjà et comme ouais. matériel il faut un four, mais c'est autour de 100 degrés, Olivier Pouls.
Bah, en fait, l'idée c'est de ne pas surcuire. Donc ouais. on est vraiment sur des températures qui sont en général comprises entre 40 et 80 degrés suivant ce qu'on va cuire. C'est parce ça. Qu'il faut pas arriver à la coagulation. Alors c'est une technique qu'utilisent beaucoup aujourd'hui les professionnels, les cuisiniers, parce que l'avantage c'est que vous n'êtes jamais en surcuisson. Et eux, ce qu'ils ont, c'est du matériel, ils mettent sous vide et ensuite ils mettent dans des fours vapeur.
Ouais, ouais,
mais
d'accord.
vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez vous amuser.
Sans mettre sous vide.
Sans mettre oui. sous vide. Le gigot de 7 heures, c'est enfantin. Vous prenez un beau morceau de gigot, vous mettez ça dans une cocotte, vous allez mouiller avec un peu de vin, vous mettez quelques légumes, vous fermez la cocotte, vous la luttez, vous l'oubliez dans votre four pendant 5, 6, 7 heures. À une température de 70 degrés, donc ça, c'est la température de cuisson à l'intérieur de la viande, il n'y a aucun problème, ça va marcher. Vous pouvez faire des poissons aussi en cuisson lente.
Ouais, mais comme vous dites, 6-7 heures, si je l'arrête à 6 et à 7, ça ne va pas être la même viande.
Non, ça ne change en fait pas grand-chose, parce qu'une fois que la température a pénétré dans la viande, qu'elle est devenue moelleuse, on ne surcuit jamais.
Ça fait les belles heures aussi de l'œuf dit parfait qu'on a vu sur toutes les tables ces dernières
63
années.
63 degrés, voilà. Exactement, parce ouais, que d'accord. la température de coagulation du blanc et du jaune ne sont pas les mêmes.
Une autre astuce, c'est la vaisselle. Vous savez, Sanseverino. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Julie Andrieux, qu'on recevra bientôt d'ailleurs dans cette émission, avait été une des premières à la télévision
à cuire un truc dans le lave-vaisselle.
À cuire un saumon ouais, ouais. dans le lave-vaisselle, ouais, ouais. dans un sac de congélation, à 65-70 degrés au lave-vaisselle.
Si vous êtes, oui, il y avait eu la cuisson du steak au fer à repasser aussi.
En fait. Voilà, mais ça marche vraiment en plus. Hein. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant avec notre questionnaire. On va vous mitonner à la sauce bon vivant, Sanseverino. A tout de suite sur Europe 1.
J'attends.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants. On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On passe la dernière demi-heure de l'émission en compagnie de Sanseverino, chanteur bon vivant qui se tient très bien à table. Hein, ça va bien, on passe un bon moment avec vous, Sanseverino.
Ouais, moi aussi, c'est le principe de l'invitation, c'est-à-dire que tout le monde est heureux et l'énergie se renvoie.
Exactement. Et on dit que pour bien connaître quelqu'un, il faut regarder dans son enfance. Quand on regarde la vôtre, elle était très voyageuse. Hein. Vous avez ouais. un papa qui a beaucoup bourlingué.
Exact. Ouais.
Mais, alors racontez-nous les pays que vous avez traversés enfant, c'est incroyable.
Alors on était dans plein de pays du style tous les pays d'Europe là que je citerai pas parce que tout le monde les connaît. Ensuite on est passé dans les pays de l'Est qui ont changé de nom entre temps, comme l'ex-Yougoslavie, etc., Bulgarie, choses comme ça, dans lesquelles on passait entre 3 mois et 1 an et demi, ça dépendait des chantiers de mon papa. Et on s'est arrêté de le suivre, pardon, quand l'école a commencé à être obligatoire, c'est-à-dire dès la 4e ou la 3e. Avant c'était quand même assez on n'était pas obligé, quoi. Je passais plein de temps sans aller à l'école. Et c'était très bien.
Est-ce qu'il y a des plats qui vous ont marqué dans les pays que vous avez traversés enfant, là?
Alors oui, il y a plein de plats qui m'ont marqué, notamment en Nouvelle-Zélande, un truc qui s'appelle le hangi, qui est un truc qui se fait en Polynésie. On creuse un trou dans la terre, on fait chauffer des pierres volcaniques sur un feu pendant assez longtemps. Ensuite, on met ces pierres au fond du trou. Ensuite, une espèce d'énorme pot-au-feu. Viande rouge, porc aussi d'ailleurs, qui n'est pas très rouge, et puis plein de légumes, tout ça dans des draps pour protéger ça de la terre et des pierres. Ensuite, c'est recouvert de terre, et ça cuit à l'étouffée comme ça pendant 4 heures. Ensuite, on rouvre à la pelle pour sortir ce repas qu'on mange. En gros, c'est un pot-au-feu. Hein.
Mais vous l'avez, votre cuisson lente, là, vous voyez.
Mais oui, mais ouais, bien sûr.
Sauf
que là, on n'est pas à 60 degrés. Là, les pierres, elles ont passé 4 heures sur un bûcher, et elles sont méga chaudes, c'est des grosses pierres. Mais ceci dit, c'est ce principe-là. Ouais.
Vous êtes amateur de vin, Sanseverino ?
Malheureusement, oui.
Ah, pourquoi malheureusement ? Avec
modération. Parce que j'ai tendance à pas... Bah non, le vin et la modération, c'est deux mots qui vont pas très bien ensemble.
C'est compliqué, alors.
Oui.
Je sais pas si vous avez remarqué...
Soyons francs.
Mais il y a un ressenti général en ce moment qu'on observe, les vins sont de plus en plus alcoolisés. Ça vous parle, ça, cette sensation ? Je vous laisse terminer votre bouchée de choucroute. C'est vrai que c'est un bon invité, hein. Ça fait plaisir de le recevoir.
Il finit bien son assiette.
Vous avez votre rond de serviette à la table des bons vivants, Sanseverino.
C'est gentil, merci.
Vous avez remarqué
beaucoup.
Ça, les vins de plus en plus alcoolisés ?
Bah, ça dépend desquels, mais oui, ils sont forts. Bah, c'est-à-dire que les vins, ils sont de plus en plus bien faits, en fait, par un peu tout le monde, là. Si on en a fini avec les mauvais vins de l'Hérault, etc.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'alcool dans le vin aujourd'hui, Olivier Pouls, pour vos 2 minutes du vin ?
Oui, c'est vrai. Et il suffit de regarder les étiquettes. Hein, la mention du degré alcoolique d'un vin est obligatoire sur une bouteille.
Et est-ce qu'elle est fausse ?
Alors, elle est légèrement arrondie, en fait. Ouais. On peut l'arrondir au demi-degré près.
Qu'est-ce qui s'est passé, alors ?
C'est que depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, vous avez deux phénomènes. Vous avez, un, le réchauffement climatique, qui est indéniable. Et puis, vous avez raison, on fait des vins de mieux en mieux et on les maîtrise de mieux en mieux. Et ça aussi, ça a augmenté le degré d'alcool. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant.
Alors, on va commencer par la première cause, la première raison, le réchauffement climatique. Il fait plus chaud, donc ça veut dire que les raisins mûrissent plus, quoi.
Ben, c'est mécanique. C'est vrai qu'au plus il fait chaud, au plus le raisin se concentre. Et cette concentration amène des degrés de sucre plus importants. Et c'est le sucre qui fait l'alcool. C'est la transformation via les levures. 18 grammes de sucre, 1 degré d'alcool. Au plus il y a de sucre dans le raisin, au plus au final, le vin se retrouve alcoolisé.
On peut rien y changer, sauf si on fait du vin plus au nord, quoi.
Bah, on peut monter au nord, on peut changer les cépages, on peut monter en altitude aussi, il y a différentes choses, mais c'est vrai que quand vous êtes dans certains terroirs qui sont bien définis, bah, à Saint-Émilion, par exemple, où vous aviez des vins à 12,5 degrés et vous les avez aujourd'hui à 14,5, 15, 15,5, bah là, on peut rien y faire. Sauf peut-être jouer sur les cépages.
Et la volonté de faire des vins de meilleure qualité a donc aussi fait augmenter l'alcool dans le vin, quoi. Hein, c'est ce qu'on disait.
C'est ce que vous disiez. On fait des raisins plus mûrs parce que ce qu'on recherche, c'est le plaisir, la gourmandise, le fruit. Et ça s'obtient avec des raisins de grande maturité. Et la grande maturité amène des degrés de sucre plus élevés, donc des vins plus riches en alcool aussi.
Mais est-ce que c'est grave qu'il y ait plus d'alcool dans le vin, au fond ?
Alors, pas forcément, c'est une question d'équilibre. Je vous ai apporté deux vins. Regardez, vous avez là un magnifique Côte du Rhône. Sanseverino revient, je vous en sers. Voilà le domaine Saint-Patrice. Hop.
Priez pour nous.
Qui titre 14,5 degrés d'alcool sur l'étiquette. Mais en réalité, on ne le sent pas parce que le vin est équilibré. Il y a un joli fruit, c'est bien arrondi. Et on parlait tout à l'heure d'un excellent Cabernet Franc de Saint-Nicolas de Bourgueil, les vins d'Arel que je vous ai servi, 12,5 degrés, il y a 2 degrés d'écart. Là aussi, il y a de l'équilibre, le vin est différent, mais dans aucun de ces vins-là, on ne sent vraiment l'alcool.
Mais on sent le fruit, effectivement, il y a un très bel équilibre, on en revient toujours à ça, quoi. C'est une question d'équilibre
pour
apprécier.
C'est une question d'équilibre. En revanche, quand on arrive à des degrés très élevés, des 15,5 ou des 16 qu'on voit parfois, là, il y a ce côté un peu chaud qui forcément va arriver en fin de bouche.
Eh ben, merci Olivier Pouls. Et on vous retrouve, hein, je le rappelle, tous les jours dans l'équipée sauvage du camarade Mathieu Noël de 16h à 18h.
Sous le nom de Snoop Doggy Bag.
Oui, j'ai entendu ça cette semaine. Absolument. Oui, vous avez un côté rappeur maintenant. Absolument. Mais chez nous, c'est Olivier Pouls. Hein. Cher Sanseverino, c'est l'heure de passer au grill de notre questionnaire des bons vivants. Vous êtes prêts ?
Oui, je suis hyper prêt.
Alors, quel est le goût de votre enfance, Sanseverino ?
Alors, le goût de mon enfance, c'est la sauce tomate. Parce que moi, de famille d'émigrés italiens, où quasiment tous fait à la sauce tomate, ou à part quelques rares trucs. Donc, chez moi, ça sentait tout le temps la sauce tomate. Et chez moi, toujours maintenant, je pense, dès qu'il fait un... Comme par exemple, il fait aujourd'hui assez moche. Ce soir, si j'étais pas parti chez les copains faire du foie gras, je pense que j'aurais fait une grosse sauce tomate. Je fais la sauce tomate, puis après, je réfléchis ce que je fais avec.
Oui, mais c'est bien, c'est un bon début, ça. Le premier plat que vous avez cuisiné ?
Le premier plat que j'ai cuisiné, je crois que c'est les gnocchis, avec la recette appris par ma maman.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable, Sanseverino ?
Mon plat inoubliable, ça reste quand même le hangui, parce qu'il y a un truc visuel que j'ai eu là quand j'avais à ce moment-là 11 ans, et c'est le truc le plus inoubliable. Après, ouais, comme je suis toujours un peu fourré au restaurant, j'ai mangé des trucs très très bons un peu partout, et puis des fois pas du tout.
Alors votre pire repas, justement.
Le pire repas, c'était dans un endroit dont d'abord je citerai pas le nom, parce que je pense que c'est un endroit qui a pas de nom, qui est un espèce de petit restaurant où on m'avait servi un repas végétarien avec des pâtes, de la purée et des frites. Et parce que je voulais pas de viande,
Vous avez tout mis là.
Donc là j'ai tout eu, et puis en plus, comme souvent on sert les végétariens maintenant dans les mauvais endroits, c'est-à-dire on leur donne des légumes pas assaisonnés, rien, c'est pas beau, c'est mis en tas comme ça, et c'est mon pire repas. Je crois que j'ai pas fini, je suis parti du restaurant, on était en tournée, on jouait à Bordeaux, et j'ai invité tous les copains de la tournée, c'est-à-dire on était une dizaine, j'aurais dit venez, on se casse de là, et on est rentré dans une brasserie, et on a mangé un truc un peu gras,
c'est ce qu'il faut
dont
faire.
Je tairai le nom.
Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer.
Les insectes, quand je vois ça sur des vidéos, sont des insectes vivants, parce que j'ai déjà mangé les secs là en apéritif, c'est pas mal, mais bon, ça a le goût du sel qu'on met dessus, quoi.
C'est ça.
Et ça, j'aimerais bien essayer ce truc-là une fois là.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, San Severino?
La pasta chute, j'emmène 100 kilos de pâtes, un peu de sel, de l'huile d'olive et point à la ligne. J'emmène même pas de casserole, j'ai cuit dans la mer.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Ah ben c'est des gens qui se déplacent plus beaucoup, qui sont Eddie Merckx, Django, des gens comme ça là. Moi, j'inviterais ces mecs là quoi. En plus maintenant ils ont arrêté le métier, surtout Eddie Merckx, ils mangent bien, je crois.
C'est vrai, oui absolument. J'ai croisé en Belgique, ils mangent.
Ouais, c'est pour les avoir de près quoi.
Et le mot de la fin, FAIM, San Severino.
Le mot de la fin, c'est cuisson. Hein. C'est odeur et cuisson.
Odeur et cuisson, et pas forcément basse température.
Non, non, ça c'était un détail.
Il faut que ça crépite.
Ouais, aussi, ouais, ouais.
Faut que ça chante.
Saisissure.
Faut que ça chante, comme vous. Merci San Severino d'être passé.
C'est moi qui vous remercie.
À la table des bons vivants, je rappelle votre album, l'album sur lequel vous figurez et vous participez en ce moment, c'est Le Prest en symphonique.
Oui.
Il y a Clarica, il y a Cyril Mokayesh, Romain Didier et vous, San Severino.
Et Romain Didier qui a écrit le score de cet album aussi, c'est-à-dire qu'il a fait tout le travail d'écriture pour le symphonique. Donc.
Et oui, c'est en version symphonique, une très belle idée de cadeau de Noël. Et vous serez en tournée, tiens aussi. Le 24 janvier à Saint-Étienne-du-Rouvray, le 25 janvier à Coutances. De jolies casseroles et de jolis poils à Coutances. Faites votre marché.
Ouais, Normandie.
Et le 2 avril.
Crème fraîche.
À Limoges. Merci à toute la bande des bons vivants de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Jean-Luc Arblade à la réalisation, Agnès Vaudin à la programmation, Julien Matt, Marion Sauveur, Lucie Lescourou. Merci à vous, Olivier Pouls et Charlotte Langrand.
Merci, Laurent.
On se retrouve
la
semaine prochaine. Et merci à la choucroute d'Olivier Nasty. Absolument.
Ouais, très, très bon.
Vous retrouvez les recettes sur Europe1.fr. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast, bien entendu. Et on sera la semaine prochaine avec un bon vivant qui aime rire. C'est Jean-Philippe Janssen qui sera avec nous. Bon week-end. Faites le marché, la cuisine et le reste. Aussi. Bon week-end, Justine.
Bon week-end, Laurent. Et pour une fois, on vous entend avant samedi prochain. Bah oui, demain, Nicolas Caro visite votre bibliothèque à 14h sur Europe 1. Pour ce qui est de ce samedi, votre journée continue avec le journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. Et à 15h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet et l'humoriste Jarry pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Alors merci d'avoir choisi Europe 1. Il est midi 27.